Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Alors, je vous propose de faire un format un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas faire de petites musiques, etc. J'ai envie d'enregistrer cette première FAQ un peu à la Roots, un peu comme ce que fait l'âme UA sur son log. Je trouve ça hyper bien. Il allume le micro et en fait il monte pas et juste il parle comme ça tout seul face à son micro. Alors je crois que lui il a un chat en direct, mais moi je vais pas faire ça. Je vais juste balancer ça comme ça. Lire vos questions parce que vous m'en avez posé plein et déjà merci beaucoup pour tout ça parce que c'est vraiment super. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de vous parler comme ça pour une fois, de causer dans le micro et sans monter grand chose en fait. Et donc merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vous propose de les faire. Alors je les ai classées un peu dans l'ordre. Je suis désolé, j'ai pas pu toutes les garder parce qu'il y en avait quelques-unes qui se recoupaient. Et donc, je vais essayer de faire en sorte de répondre au plus grand nombre de questions que vous avez posées. Donc, il y a Chloé qui demande « Hello Fab, quelle a été ta motivation pour créer ce podcast ?» En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle idée. Et bah, de rien, déjà. Ma motivation pour créer ce podcast, ça a été de me faire un projet. Déjà, dans un premier temps, un projet rien qu'à moi. Parce que j'ai monté Mademoiselle il y a 12 ans maintenant, et maintenant Mademoiselle il y a 25 personnes qui travaillent dessus, et plus ça va, moins je mets de, comment dire, je mets un peu les mains dans le cambouis, je crée de contenu, donc je fais encore quelques vidéos, ça m'arrive d'écrire des textes aussi, mais au quotidien c'est un peu moins ça quoi, en tout cas par rapport à avant, et tant mieux, hein, parce que c'est un peu l'objectif, hein. J'ai pas monté Mademoiselle pour continuer à écrire pour des jeunes femmes alors que j'ai 40 ans. Mais je voulais me recréer un projet rien qu'à moi, que j'avais de A à Z. Et en fait, cette idée m'est venue. Alors je le mettrai dans les notes, mais j'ai écrit un post en fait sur mon blog perso pour parler de cet épisode avec ma psy qui m'a dit que selon elle, j'étais épuisé, c'est-à-dire mon puits était vide au sens littéral du terme. J'étais à sec, voilà. Et donc elle m'a dit, il faudrait que tu ailles chercher des trucs qui vont te remplir ton puits. Et je pense que le fait de monter ce projet m'a vraiment aidé à remplir mon puits. Alors vous irez voir aussi, je vous mettrai un autre lien sur l'année 2016-2017 si vous avez pas trop suivi, qui était assez compliqué pour moi, mais qui fait qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Et je pense que ce podcast m'a aidé à contribuer, en fait, en tout cas, à m'en sortir. Donc déjà, ça a été ça. Et puis, la paternité en tant que telle, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours plutôt fasciné. J'ai créé un blog en 2005, pendant la première grossesse de ma fille, enfin de ma première fille, donc la grossesse de ma première fille, où je racontais la grossesse au niveau du père, dans un blog qui était anonyme à l'époque, donc je lançais ça en même temps que Mademoiselle, et de fil en aiguille, ça a fini par faire un tel succès sur Internet que, enfin bon, je vous la fais vraiment très courte, hein, parce que l'histoire est un peu plus longue que ça, mais j'ai fini par en faire un livre, et en fait, vraiment, le fait de creuser cette expérience en fait sociologique, hein, qui est d'avoir un enfant et en fait de se positionner en tant que père plutôt impliqué dans la grossesse de sa femme, ça m'a amené plein de questions et ça a surtout suscité plein de réactions de la part de plein de gens très différents. Et je me disais que il y a sans doute un truc à jouer autour de la libération de la parole des mecs d'une manière générale. Alors pas de la parole des mecs d'une manière générale, parce que les mecs dans cette société parlent beaucoup, parlent trop même parfois, écoutent trop peu, mais en tout cas, ils parlent souvent beaucoup, ils parlent très très peu de leurs sentiments et des trucs qu'ils ont au fond d'eux. Et ça, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien creuser. Alors, c'est un sujet qu'on creuse aussi avec Mimi sur Mademoiselle dans le podcast The Boys Club que je vous invite à, que je vous invite à découvrir. Je vous mettrai également un lien. Donc ouais, je vous invite vraiment l'idée c'était vraiment de creuser et de libérer la parole des pères en fait sur le sujet de la paternité, de d'avoir un discours un peu différent qui est juste le discours de base qu'on entend, enfin en tout cas de la part des pères, de rentrer un petit peu plus dans l'émotion et dans ce qui se passe dans leur tête et dans leur ventre. C'était un peu l'idée. Et je pense que c'est un sujet qu'on entendait trop peu, et je suis très heureux d'avoir contribué à amener ma petite pierre à l'édifice et à faire en sorte que peut-être d'autres mecs se posent la question de comment ça se passe dans leur tête et dans leur ventre. Voilà, c'était un petit peu ça, la motivation, enfin la double motivation de mon podcast, motivation personnelle on va dire, pour remplir mon puits, et une motivation un peu plus qui me dépasse en tout cas je pense, où j'essaie de libérer la parole des mecs quand il s'agit de causer de leurs émotions et de ce qui se passe dans leur ventre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour cette première question. Alors il y a Jean Père Mon Latin, Jean comme Jean, qui me dit « Bonjour, est-ce que cela t'aide dans ton rôle de papa ?» Alors oui, parce que même si je pense pas que c'est quelque chose que je, comment dire, j'ai rien appliqué comme conseil, en tout cas pour l'instant, qui me font, enfin en tout cas de conseils que j'ai pu entendre de la part d'un de mes invités, en tout cas pour l'instant, hein, ça viendra peut-être. C'est plutôt une réflexion globale et une capacité d'écoute et puis d'entendre d'autres expériences comme ça. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que parfois j'ai peut-être des façons de voir qui sont peut-être un peu, comment dire, avec des œillères, quoi, obstruées par mon point de vue, et que d'avoir d'autres points de vue de père sur la façon dont ils gèrent leurs enfants. Alors, pour la plupart, c'est vrai que pour l'instant, il y a plutôt des enfants qui sont plus petits. On en reparlera plus tard, mais j'aimerais bien aller vers des parents d'enfants un peu plus vieux. Ça va venir. J'en ai quelques-uns. Vous verrez. Je ne tease pas. Mais voilà, je pense que oui, effectivement, ça m'a beaucoup aidé à me montrer qu'en fait il y avait d'autres façons de voir, même si j'en étais assez convaincu, hein, mais d'entendre la façon des leur façon de raconter les choses et de la façon dont ils gèrent leur môme en général, ça m'a forcément ouvert l'esprit, et donc forcément ça m'a aidé dans mon rôle de père, je pense. Et Jean-Pierre Monlatin me posait une autre question qui me disait « Comment trouves-tu et comment choisis-tu les personnes à interviewer ?» Alors, pour les trouver, il y a ce fameux email « Histoire de Daron »« Histoire avec un S »« Daron avec un S » @gmail.com, où des pères anonymes, hein, qui sont des pères, on va dire, lambda, comme vous et moi, n'est-ce pas, peuvent m'envoyer un mail pour me dire qu'ils souhaiteraient raconter leur histoire. En général, j'ai tendance à répondre quasiment du tac au tac quand il y a une histoire qui me parle tout de suite. Après, il y a d'autres cas où c'est avéré un peu plus compliqué, c'est-à-dire que la personne n'était pas forcément disponible tout de suite ou disponible sur la région parisienne, et donc ça nécessite un petit déplacement, etc. Ça, pour le coup, ça demande un peu plus d'organisation. Donc ça, c'est pour l'aspect, on va dire, des pères anonymes qui ont des histoires à raconter. Et ça, j'y tiens vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment un truc hyper important pour moi d'avoir le plus grand nombre d'histoires possibles et d'avoir plein de choses à proposer, même si, en fait, en publiant un épisode tous les 15 jours, c'est pas forcément très très évident d'offrir une forme de régularité, en tout cas d'offrir une forme de diversité qui puisse se voir. J'aimerais en publier, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais j'adorerais passer au rythme hebdomadaire, mais je suis pas sûr de pouvoir tenir. Et puis après il y a les on va dire les stars, hein, les personnes un peu plus connues, et ceux-là en général j'essaie de les contacter en direct ou en passant par leurs attachés de presse ou de passer par divers moyens. J'ai une liste hein, que je garde secrète. Je ne vous dirai pas qui je cherche à contacter. Mais en tout cas, c'est je présente le truc. En général, ça m'est arrivé aussi qu'il y ait des personnes qui viennent me voir maintenant en me disant en fait j'aimerais bien participer. Donc là, j'essaie de faire attention à garder une forme de diversité aussi, une forme de diversité dans les histoires, parce que c'est pas parce que t'es connu, ou en tout cas que tu as un nom, que tu as forcément une histoire qui est intéressante, en tout cas pour le podcast, et qui permet d'apporter quelque chose par rapport aux épisodes précédents. J'essaie de faire ça. Voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas j'essaie d'avoir à chaque fois une variété dans les discours et dans les histoires. Merci beaucoup, j'en perds mon latin. Tu as le meilleur pseudo. Noël Le Marchand me dit salut. Vers quel type d'audience veux-tu avoir avec tes podcasts sur la paternité? Plutôt des hommes, des femmes, de quel âge ou peu importe. Alors c'est intéressant parce que à la base, moi j'ai lancé ce podcast encore une fois sans vraiment me demander à qui ça allait s'adresser. Je partais simplement du principe que moi j'avais envie de faire un truc et que les gens le prendraient et décideraient d'en faire ce qu'ils veulent. Alors bien sûr, il y a plutôt eu d'abord des femmes, mais ça c'était un truc que j'avais déjà remarqué quand j'avais sorti mon blog. Y a pas mal de femmes qui s'intéressent plus à la paternité que les mecs peuvent s'intéresser à la paternité. En tout cas, moi à l'époque où j'étais futur papa, c'était plutôt dans ce sens-là. Mais je me rends compte en fait que par rapport à il y a donc 12 ans ou à l'époque où j'écrivais le blog, 13 ans même. Il y a de plus en plus de mecs qui s'intéressent. Et alors, le truc qui m'a vraiment scotché pour le coup, c'est qu'il y a énormément de jeunes, de ce qu'on appelle des nullipares, n'est-ce pas? C'est des personnes qui n'ont pas encore d'enfants, et qui lisent, enfin en tout cas qui écoutent, Histoire de Daron, et ça me fait un énorme plaisir, vraiment. Alors des jeunes, des moins jeunes, hein, il y a même des ados qui m'envoient qui postent des petits messages. Alors ça, je pense que c'est parce que peut-être j'ai réussi à interviewer McFly ou Cardito, et qui sont suivis plutôt par des jeunes. Mais je pense que même si on n'a pas d'enfants, ce podcast peut vous parler parce que... Mais alors ça, encore une fois, je ne l'avais pas capté. Hein. Je me rends compte au fur et à mesure. Je pense que ça peut vous parler parce que vous cherchez à savoir comment ça se passe dans la tête de votre père et que, notamment chez les pères, hein, la grande majorité des pères, peut-être la génération d'avant moi, enfin d'après moi, comment vous dites, non, avant moi... ont tendance à pas trop parler, à être plutôt taiseux, à pas rien dire, quoi, à garder leurs émotions pour eux. Et peut-être que ce podcast aide les enfants, parce qu'on est tous, a priori, des enfants d'un père. Peut-être que ce podcast aide les enfants à savoir ce qui se passe, ou en tout cas à pouvoir s'imaginer ce qui se passe dans la tête de leur père. Donc voilà, je suis hyper ravi, en tout cas, de la variété de l'audience, que Histoire de Daron réussit à avoir aujourd'hui. Il y a vraiment toutes sortes d'individus et je trouve ça trop bien, comme quoi en fait la paternité c'est un sujet beaucoup plus universel que ce qu'on peut croire, parce que oui, effectivement, on est tous l'enfant d'un père a priori. Ok, donc il y a Hugo Cham qui dit « Es-tu content de voir que tu intéresses pas uniquement des darons mais également des femmes, des ados, etc. » Alors oui. Par exemple, moi j'ai 17 ans et ce format me fait réfléchir sur le futur de ma vie et c'est ultra intéressant. Voilà, je n'avais pas calculé, mais effectivement, merci beaucoup Hugo, c'est exactement ce que je disais. Et comme quoi j'ai devancé la question d'après, on est en format totalement YOLO, même si j'ai déjà trié, on va dire, la question. Alors ensuite, on a Ellie SLN qui me dit « Hello Fabrice, je ne sais pas si c'est réellement une question, mais en écoutant ce podcast, je me disais à quel point il est cohérent et dans la continuité de ton travail, avec ton travail chez MAD, dans le sens où il aide à mon avis beaucoup les deux genres à mieux se comprendre, en partant du principe qu'à la fois les hommes et les femmes écoutent et lisent ces deux médias. Je suis convaincu qu'une meilleure compréhension entre les genres conduira à une société plus égalitaire et que la notion de masculinité et les diktats que cela engendre doit faire partie intégrante de la lutte féministe. Et donc une question, ce podcast est-il un podcast féministe? Entre parenthèses, elle ou il, en tout cas je sais pas, répond et dit oui. Écoute, libre à toi de te demander, de te dire en tout cas, de mettre l'étiquette que tu souhaites sur ce podcast. Moi, je souhaite pas y mettre une étiquette. Moi, je souhaite juste faire des choses, interroger des gens, interviewer des gens, et puis les gens prennent ce qu'ils veulent en prendre et décident de venir dire que c'est un podcast féministe ou c'est pas un podcast féministe. Moi, je pense à titre personnel que c'est complètement absurde de ne pas être féministe en 2018, mais ça c'est mon avis, et en fait chacun fait comme il souhaite. Moi, l'important, c'est juste que les gens écoutent ce truc et peut-être ça leur ouvre des réflexions, des sujets de réflexion. Ça leur donne peut-être aussi des clés. Moi, il y a que ça qui compte. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, une meilleure compréhension entre les genres, comme tu dis, conduira à une société plus égalitaire. Et effectivement, la masculinité, en tout cas, ce qu'on appelle la masculinité toxique. Et je vous invite vraiment, je mettrai aussi des liens vers la rubrique masculinité que Mimi, qui est la fantastique rédactrice chef adjointe de Mademoiselle, tient au quotidien. Où on parle de ça, en fait. Parce que je pense effectivement que, et ça, pour le coup, moi, j'y suis pas pour grand chose, hein, même s'il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, qui pensaient que c'était moi qui incitais Mimi à parler de masculinité. C'est totalement faux. C'est Mimi qui a décidé toute seule comme une grande, parce que c'est une grande personne et qui est douée de raison, n'est-ce pas? C'est fou, même si c'est une femme. Ceci est une blague. Effectivement, la masculinité, ça pue du cul. En tout cas, la masculinité toxique, ça pue du cul. Et je pense que il est temps pour les mecs de prendre conscience de ça et de prendre conscience que réussir à sortir de ce truc dans lequel la société t'a mis, c'est-à-dire quand t'es un garçon, il faut que tu sois fort, quand t'es un garçon, il faut pas que tu pleures, quand t'es un garçon, il faut que tu prennes tout pour toi, etc. C'est aussi pété que le « sois joli », comment elle dit déjà Clem, « sois gentil, dis merci et fais un bisou » qu'on impose aussi aux petites filles, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, en tout cas. Merci beaucoup pour ta réponse et je suis... mille fois d'accord avec ton constat. Et ça me fait plaisir de voir que tu vois effectivement une continuité dans le travail que je fais sur Mademoiselle, parce que même si je m'en rendais pas compte quand j'ai monté MAD, je me rends compte qu'au fur et à mesure, et plus je vieillis, plus je m'en rends compte, peut-être que je suis en train de faire un magazine, en tout cas, à faire en sorte que Mademoiselle soit un magazine qui va inciter, qui va aider à rendre la vie de mes filles moins pourrie. Que celle de leur grande sœur, éventuellement. Alors oui, il y a eu beaucoup de questions. Donc, pardon, hein, je termine juste sur Ellie SLN. Merci beaucoup pour ta question encore, c'était très cool. Beaucoup de questions sur est-ce que tu vas faire un podcast sur les darons? Alors, ça m'a fait marrer parce que je pense à chaque fois, enfin, j'en ai vu pas mal et à chaque fois je pense à Léa Bordier qui fait la série Cher que j'aime beaucoup. Léa qui a bossé chez MAD pendant 3 ou 4 ans, je ne sais plus, mais en tout cas qui est vraiment quelqu'un qui est cher à mes yeux et qui me disait qu'elle en avait un peu marre d'avoir des questions qui disaient à quand un cher corps pour les mecs. En fait, elle veut pas faire de cher corps pour les mecs, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas son objectif. Elle veut faire parler les filles de leur corps et c'est son projet. Et donc ce qu'elle dit à chaque fois, c'est mais n'hésite pas, fais-le. Donc, vas-tu faire un podcast pour les darons? En fait non, parce que on entend beaucoup les mamans sur la maternité. Alors peut-être que j'arriverai à amener une autre façon, mais en tout cas c'est pas mon objectif. Là, mon objectif, c'est de me concentrer sur les darons. Il n'est pas impossible que je creuse le sujet du couple, en fait, mais ça sera sur un autre podcast et peut-être éventuellement sur Mademoiselle, parce que c'est à quelques reprises, je me suis dit putain, c'est pendant les interviews, je me disais c'est génial d'avoir le point de vue du mec comme ça, mais j'adorerais avoir le point de vue de l'autre aussi. Alors dans un podcast croisé, dans une interview croisée, séparée, je ne sais pas encore. En tout cas, on va peut-être je vais creuser ce sujet-là du couple, parce que je trouve que la dynamique de couple, c'est toujours vachement bien. Donc non, je vais pas faire de podcast avec des darons, je vais pas non plus faire de podcast avec je sais plus, j'ai eu pas mal de questions sur est-ce que tu vas faire des podcasts avec les enfants. A priori, non. En tout cas, pas comme ça. Enfin, je reparlerai peut-être un peu après, mais peut-être que le format va venir à évoluer, hein, parce que il y a un moment donné où peut-être ça me lassera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai encore suffisamment de darons à faire pour pas aller m'éparpiller sur d'autres sujets. Alors, il y a It's Chassou, pardon. As-tu également prévu d'inviter des grands-pères? L'émission avec ton papa était très intéressante, notamment pour mettre en avant le contraste entre le rôle de père et de grand-père, mais aussi sur le fait de voir ses enfants devenir parents à leur tour. Merci pour ce podcast. Alors, merci à toi. Alors oui, j'ai prévu d'inviter des grands-pères. Il y en a notamment un que j'ai déjà enregistré, un autre par rapport à mon père, effectivement, que j'ai déjà enregistré, où on parle d'un sujet très spécifique en fait. Mais vous verrez, c'est un podcast un peu différent. En fait, je me fixe pas sur interviewer des pères ou des grands-pères, parce que a priori les grands-pères ont été pères. Donc on verra. Ça dépendra vraiment des témoignages que je reçois et des différentes sollicitations que je reçois. J'ai reçu aussi des témoignages de pères un peu plus vieux. Et j'espère pouvoir les faire, en fait, d'avoir des darons qui ont des grands-enfants. Yo, ma grande.
Ça?
J'enregistre la FAQ d'Histoire de Darons.
Tu réponds à des questions?
Oui. Tu fais un gros couteau.
À quand l'histoire de Daron de Fab? Eh bien, c'est fait! Bonne nuit, papounet.
Bonne nuit, ma grande.
À demain.
Fais beau rêve.
Bonne nuit.
Alors, comme je vous ai dit que je montrais un minimum, voici ma grande fille. Je suis trop heureux parce que, en fait, pour vous raconter un petit peu ma vie, la grève de la SNCF m'impacte pas mal en fait entre ma vie entre Lille et Paris, mais j'ai décidé de pas m'énerver, de prendre ça avec beaucoup de détente. Et, là par exemple, je suis rentré un peu plus tôt pour pouvoir échapper à la grève demain, et plutôt que de me dire que je suis en train de rater une journée de boulot à Paris, je suis trop heureux parce que ma femme est partie dans un dîner d'affaires en ville, et moi je me suis occupé de mes filles, comme ça faisait un petit moment en fait que je m'étais pas occupé d'elles dans une soirée de base en semaine, parce que je travaille à Paris la semaine, et donc je vis à Paris la semaine, et mes filles sont à Lille, voilà, donc je suis super content. De quoi on parlait? Oui, des grands-pères. Effectivement, on verra. Ça va vraiment dépendre des sollicitations. De la même façon qu'il y a Molly qui me dit, j'adorerais entendre un jour le témoignage d'un père absent, quelqu'un qui n'a pas vu ses enfants grandir au jour le jour. Alors c'est pareil, je fais vraiment, et il y en a eu quelques-uns comme ça. Je fais vraiment en fonction de ce que je reçois. Mais oui, je cherche à mettre toutes sortes d'histoires. Et s'il y a des pères qui se considèrent absents et qui sont prêts à venir raconter leur histoire sans venir en faire une, comment dire, un confessionnal, hein, ou une façon de venir expier leurs péchés de mauvais pères, de pères indignes, parce que c'est pas du tout l'idée, je les entendrai avec grand plaisir. Je pense que la vie est un chemin, et que il est très probable, même moi, hein, parfois je me pose la question, parce que je vis pas au quotidien avec mes filles. C'est un choix de ma part, c'est un choix de la part de ma femme, c'est un choix. Alors c'est moins un choix de mes filles, hein, mais c'est, en tout cas, c'est un choix de couple de notre part à tous les deux. Et parfois je me dis, est-ce que je regretterai plus tard? C'est la vraie question que je me pose. Et en même temps, j'ai pas envie de passer à côté de l'opportunité de faire grandir ma boîte. Donc l'un dans l'autre, c'est des choix. Donc si un jour un père absent souhaite venir raconter sa vie de père absent au micro d'Histoire de Daron, surtout n'hésitez pas, je vous recevrai avec grand plaisir, et no judgment, seul Dieu peut nous juger, et encore. c'est une expression, je ne suis pas vraiment tourné vers Dieu pour ma part. Alors, il y a Like Mars and Venus qui me dit « Salut Fab, trop cool les podcasts, je me demandais, est-ce que tu vas faire des interviews de darons homosexuels qui ont, selon moi, aussi un rapport à la paternité intéressant? Continue comme ça. » Merci beaucoup. Et alors là, c'est pareil. Je J'ai eu beaucoup de réponses, de questions en fait par rapport à au fait de, d'interviewer des pères homosexuels. Je suis sur la trace, je sais pas, on peut le dire comme ça, d'une connaissance. Alors c'est toujours un peu compliqué de venir parler de ça, à une personne qui est a priori aussi bienveillante que moi. En tout cas, je pense être un mec plutôt bienveillant quand il s'agit de faire des interviews, et en général même dans la vie. Mais c'est pas forcément évident, donc je ne force pas. Je ne force personne, bien sûr, mais je connais un couple, en fait. J'adorerais les interviewer, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Donc ça prendra le temps que ça prendra, peut-être un jour. Alors, Ambre Ninombé dit « À quand l'histoire de Daron de Fab ?» Et vous avez sans doute entendu Lina tout à l'heure qui passait et qui disait « Bah, c'est déjà fait !» Bah oui, c'est déjà fait. Vous verrez à quoi ça ressemble. Je n'en dis pas plus. Rebcas dit « Pour toi, quel invité serait le top du top ? Celui pour qui te ferait dire « Ça y est, je l'ai fait !» Alors, alors, il y en a pas mal, hein, mais il y a un invité que j'adorerais avoir, après qui je cours. Hein, je sais que ça va prendre peut-être du temps et beaucoup de temps, mais peu importe. J'adorerais avoir Fabrice Lucchini. Voilà. Si tu m'écoutes, Fabrice, surtout n'hésite pas à venir causer à l'autre Fabrice. C'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas du genre fan, en fait, dans ma vie en particulier. Mais voilà, j'aimerais bien avoir Fabrice Lucchini. Je pense que ça pourrait être intéressant de l'entendre parler de tout ça, et c'est en même temps, j'ai bien conscience que c'est un peu compliqué pour les stars, on va dire plus hein, qui sont je pense connues par ma mère par exemple, parce que pour moi c'est, tu commences à vraiment être une star quand ma mère te connaît, de venir parler de leur vie privée, donc ça peut prendre un peu de temps. Et peut-être que ça se fera pas, et c'est pas très grave. En fait, oui, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'important, c'est juste de raconter des histoires, et peu importe que ce soit Fabrice Lucchini qui vient de raconter une histoire ou quelqu'un d'autre, tant qu'il y a des histoires chouettes à raconter, moi, ça me va bien. Alors, Yesus du Crime qui dit « Bonjour Fab, jusqu'à présent, il semble que les interviewés soient majoritairement des parents de jeunes enfants. À l'avenir, est-il envisageable d'entendre des parents d'ados ?» voire plus en âge. Merci, c'est génial. Continue. Merci beaucoup, Zeus du Crime. Ton pseudo est génial. Alors oui, j'en ai déjà enregistré. Ça va venir. J'ai un peu d'avance, en fait, hein, pour tout vous expliquer. Ça va prendre... C'est l'une des petites frustrations que j'ai aujourd'hui sur Histoire de Daron, c'est qu'effectivement, j'aimerais bien en publier plus, parce que je pense que j'ai la capacité de le faire de temps à autre. Après, il y a des moments où j'ai moins de temps, et donc je ne voudrais pas lancer un rendez-vous hebdo que je n'arriverai plus à tenir au bout de, on va dire, un mois ou deux mois. Donc j'essaie de pas, comment on dit, péter plus haut que son cul sur le sujet. Mais oui, j'aimerais bien avoir des parents d'ados un peu plus... Enfin, des parents d'ados, et puis voire même des parents de grands-enfants. J'espère en tout cas que ça viendra. Ah, Julie80T14 me dit « J'aime beaucoup le concept de l'interview audio, mais pourquoi ?» Point d'interrogation. « Pourquoi ne pas y ajouter l'image ?» Ah, ça alors vraiment... c'est une immense question, parce que... Notamment parce que je mets les épisodes sur YouTube, j'ai eu au départ beaucoup de questions qui me disaient mais pourquoi t'as pas mis une caméra ? Et en fait la première interview avec Verino, j'avais mis une caméra et en fait je me suis rendu compte en le montant que la caméra ne servait à rien et que la caméra au contraire était une sorte d'intrus dans cet entretien qui était très assez intime hein, en fait, où Verino se livre pas mal sur sa famille, sur ses enfants, etc. Et je me suis dit, mais en fait, enlève cette caméra, elle sert à rien. Alors effectivement, c'est un peu bizarre parce qu'on a l'habitude d'avoir de l'image, et surtout sur YouTube. Si tu écoutes sur YouTube, t'as encore plus l'habitude d'avoir de l'image. Mais il y a un truc un peu intéressant avec l'audio, c'est-à-dire que par exemple pour cette FAQ, je me disais mais est-ce que tu te filmes ou pas parce que tu vas la mettre sur YouTube, peut-être que tu peux y mettre ta trombine, ça serait cool. Et en fait, là je suis dans mon canapé, je suis posé, Je suis, il n'y a pas de lumière, il y a juste un peu de une lumière un peu sombre dans mon salon. Et je pense qu'il y a un truc un peu spécifique avec l'audio aussi qui permet de pouvoir s'imaginer. Il y a notamment McFly qui rit de ça au tout début de son interview. Il dit que il est attaché au mur, dos à moi, etc. Alors c'est une blague, bien sûr, il n'était pas attaché au mur, mais c'est le seul, bien sûr, parce que c'est le seul, parce que c'est notamment, je pense, le seul qui a fait de la radio pour l'instant. Qui joue avec ce côté, justement, on ne le voit pas, il n'y a pas d'image. Et je pense que c'est intéressant. Voilà, on est trop habitué maintenant à mettre de l'image partout. J'avais entendu Vincent Lindon gueuler sur. Je pense que c'est Vincent Lindon, hein, qui râlait sur le fait que la radio était filmée avec, avec les webcams, etc. Et qu'en fait, il y a un truc un peu mystérieux derrière la voix et chacun peut y mettre. Se faire une petite idée de ce qui se passe derrière. Et c'est cool de pas avoir d'image. Je suis très heureux parce que notamment pour tous les darons un peu moins expérimentés par l'image et par venir raconter leur histoire, on est que tous les deux. Voilà. On est lui et moi à venir causer. Et en fait, il n'y a pas un troisième œil. Il n'y a pas une troisième personne qui est une caméra à laquelle il faut faire attention, à laquelle il faut peut-être parler, enfin bref, moi je suis très heureux qu'il n'y ait pas d'image, vraiment, et je suis très heureux de cette interview, de ce concept d'interview audio. J'espère que ça répond à ta question, Julie. Lilou Igles me dit « Salut, ça va ? Je voulais savoir combien de temps ça te prenait d'enregistrer un épisode, et où êtes-vous quand vous le faites ?» Alors, ça prend à peu près le temps.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tant que ça prend de l'écouter, c'est-à-dire que je coupe très très peu. J'ai tendance à pas du tout. En général, je leur propose de venir à mes invités de venir dans les locaux de Mademoiselle. Pour Ben par exemple, Mazuet, on était allé dans une cour, dans la cour de chez Sony, de son label. J'ai été allé chez Bruce aussi, je pense, dans son immense foutrac grenier là, génial. Dans son bureau, d'ailleurs, c'est pas un grenier. On dirait un peu, je pense à ça parce que je dis c'est un grenier, et ça me fait penser un peu à un grenier, j'y retrouve tout. Et puis pour les autres, je pense qu'ils sont venus chez Mad, d'une manière ou d'une autre, dans les bureaux, on prend une heure, et en fait on s'enferme dans une salle, et on discute. Voilà, mais je monte très très peu. Donc globalement... ils viennent, je leur sers un petit café, un verre à boire, et puis après on lance je leur explique un petit peu le concept. Je leur parle le moins possible parce que je déteste parler, en tout cas démarrer l'interview avant que ça enregistre. Vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Donc je leur parle le moins possible. Je suis un peu, comment dire, pas très avenant en tout cas au tout départ parce que je veux pas démarrer l'interview, je veux pas me spoiler. Je veux avoir la fraîcheur, garder la fraîcheur de l'interview, en tout cas pour l'interview. Donc voilà, ça prend, on va dire, une heure et demie à tout casser. J'espère que ça répond à ta question, Lilou Igles. Alors il y a Mathilde qui me dit « Bonjour, est-ce que le regard que tu portes sur ton père a changé depuis que tu l'as interviewé ?» Alors oui, vraiment, parce que c'était vraiment génial ce moment. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages déjà pour me remercier de cette interview parce que je lui en ai envoyé quelques-unes, pas toutes hein, mais parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais je pense que lui se rendait pas compte de l'impact que cette interview pouvait avoir Et en fait, ça, oui, le regard a changé parce que vous l'entendez pas et vous le voyez pas, mais en fait, quand on fait cette interview, lui et moi, je suis vraiment, je tombe des nues quand je me rends compte à quel point il est encore tellement sensible. Alors spoiler, hein, sur le fait que son père soit mort quand il était jeune, hein, son père est mort quand il avait 30 ans, donc un peu avant ma naissance. Et en fait, il se met à pleurer, mais vraiment au bout de 2 minutes d'interview, je n'avais aucune idée qu'il était à ce point-là encore sensible sur le sujet. Et puis à la fin, il pleure aussi complètement quand il reparle de ça, et ça m'a complètement décontenancé. D'ailleurs, petite info, hein, mais j'ai mis un rire. En fait, j'ai eu un rire. J'ai pas mis un rire. J'ai eu un rire qui était un rire. En fait, que j'ai fini par couper au montage parce que je me disais, mais il va être mal interprété ce rire. Parce qu'en fait, c'est un rire de gêne. C'est un rire de what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un rire où parfois, si vous allez voir un spectacle un peu trop hardcore, en fait, vous allez rire sur un truc qui vous gêne un petit peu. C'était un peu ce genre de rire là. En fait, j'ai fini par le couper. Alors, je sais que c'est peut-être malhonnête, mais en tout cas, je me disais qu'il serait sans doute pas bien interprété ce rire. Et puis surtout, vous avez pas l'image, donc effectivement, vous pouvez pas voir ce qui se passe. Et en fait, mon père a encore pleuré pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après l'interview. Il n'en pouvait plus. En fait, ça est sorti, et puis c'est sorti pendant très très longtemps. Donc, il a passé une grosse partie du repas de Noël. À pleurer, à venir dans le salon, à repartir, à venir sécher ses larmes, etc. Et en fait, ça m'a vraiment touché parce que je pensais pas qu'il était. On a parfois parlé effectivement de mon grand-père que je n'ai donc pas connu et de son père, mais je pensais pas qu'il était encore à ce point-là à vif sur le sujet parce que ça fait quand même l'air de rien 40 ans. Et bah, je ne m'imaginais pas qu'il l'avait pas traité. En tout cas, je pense pas qu'il ait traité vraiment son deuil, quoi. Et ça m'a touché vraiment. Je pensais pas que c'était encore si dur pour lui. Et effectivement, on n'en avait jamais parlé. Je voulais aussi dire merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que cette interview leur avait donné envie d'avoir ce genre de conversation avec leur père. Peut-être même avec leurs parents, avec leur mère aussi, hein, pourquoi pas. C'est le genre de conversation qu'on n'a pas, en tout cas moi, qu'on n'a pas spontanément en fait avec nos parents. Et je trouve que c'est génial, pourtant enfin, j'ai vraiment passé un super moment. Et je me dis que c'est dommage d'avoir été obligé de lancer ce podcast et d'avoir obligé d'attendre 40 ans pour le lancer, enfin, en tout cas pour avoir cette conversation-là avec lui. Donc merci à vous si vous m'avez envoyé un petit message pour me dire que ce podcast avait encouragé une conversation entre vous et votre père ou vos parents, ça m'a beaucoup touché, vraiment. Alors ensuite, pas mal de questions sur l'évolution du concept. Est-ce que tu penserais un jour faire des interviews croisées du type un papa et son enfant? Alors effectivement, c'est Marine Simply Positive qui dit ça. C'est peut-être une évolution que j'envisagerais, mais alors pas forcément pour tout le temps, mais peut-être que sur un cas en particulier, si ça se présente et qu'il y a un intérêt en fait à avoir une interview croisée comme ça, je le ferais. Ouais, c'est une bonne idée. J'avais acheté un bouquin qui s'appelle Père d'aujourd'hui, fille de demain. Alors en plus, il est plus édité. C'est dramatique parce que ce bouquin était vraiment génial. J'ai acheté ce bouquin-là quelques jours après la naissance de Lina parce que j'étais un peu terrifié moi à l'époque d'avoir des filles parce que j'avais suivi un peu sur Mademoiselle et je me rendais compte à quel point c'était compliqué d'avoir des filles quand on est un père. En tout cas, la relation n'était jamais. En tout cas, il y avait tout un topic sur le forum Mademoiselle sur les pères, sur le rapport au père. Et il n'y avait jamais de relation très apaisée. C'était soit mon père est un génie et je l'adore et je le mets sur un piédestal et en fait, en gros, jamais un mec réussira à le détrôner, quoi, ce qui n'est pas forcément excessivement sain. Ou alors, mon père est une ordure et voilà, il est absent. Ou une ordure ou un mec incapable de comprendre et de se mettre à ma place. Et en fait, ce bouquin, j'avais trouvé ce bouquin un peu par hasard à la FNAC quelques jours après la... La naissance de Lina, et je l'avais acheté, et c'était passionnant, parce qu'en fait, ce bouquin était un bouquin d'entretien croisé entre père et fille. Et après chaque entretien, il y avait un décryptage, en fait, d'un expert, un psy, enfin, ça dépendait, en fait, de la nature de l'entretien. Et c'était vraiment super bien. Et en plus, je l'ai perdu comme un connard et il est plus édité nulle part. Donc, si vous avez l'occasion de le trouver, ça s'appelle Père d'aujourd'hui, fille de demain. C'est fait par une psychologue, si je me trompe pas. C'était vraiment super, super, super bien. Ça me fait penser d'ailleurs peut-être que je pourrais retrouver cette personne et l'interviewer dans un histoire de daron, pourquoi pas, un peu spécial. Anouk Flannery me dit « Est-ce que tu envisagerais un jour de basculer de l'autre côté avec des histoires d'enfants de darons ?» Le plus ouf serait que le podcast existe encore dans 15-20 ans et que tu ailles voir les enfants des darons avec qui tu as discuté. Alors là, vraiment, ça serait fou, effectivement. Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense pas basculer sur des histoires d'enfants de darons. En tout cas, il y a un truc que j'aimerais bien faire, si ce podcast existe encore dans 5 ou 10 ans, effectivement. Ça serait de retourner voir, de refaire le tour de tous les darons que j'ai pu avoir et d'avoir une sorte de mise à jour. Ça c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Bon, on verra, je me projette loin. Quel est l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt de se projeter aussi loin. Mais en tout cas, j'y ai déjà pensé et je trouve que c'est une idée marrante. Alors, quid d'un épisode? C'est Red Thomas qui dit ça. Quid d'un épisode à propos d'enfants ayant été adoptés et du point de vue du daron? Ah oui, bah alors c'est pareil, moi ça va dépendre aussi de ce que je reçois comme témoignage, hein, comme d'habitude. Il y a Elnou qui me disait, est-ce que tu peux inviter des gens qui ne veulent pas d'enfants et qui expliquent pourquoi? Alors, ça pourrait être notamment un épisode spécial, oui, effectivement. Un épisode, peut-être entre les épisodes, peut-être que je vais faire ça à la rentrée prochaine, d'avoir des épisodes qui seraient plus informatifs, je ne sais pas, on verra. Mais ça pourrait être un épisode intéressant d'avoir un mec qui veut pas d'enfants et qui peut-être explique pourquoi, alors, une compilation de courtes interviews, peut-être un peu plus courtes, pour avoir une diversité, je ne sais pas, on verra. Mais c'est une idée intéressante. Il y a Sabrina Aydora qui me dit, est-ce qu'il y a des sujets plus difficiles à aborder pendant les histoires de Daron? Alors ça, c'est... Là, on revient. Alors, c'est pareil, il y a Chris Wookie après qui dit « Y a-t-il des moments trop perso que tu n'abordes pas dans les podcasts ?» Alors ça, d'une manière générale, ça se... J'ai pas de bonne de réponse à apporter à ça. En fait, ça se passe vraiment sur le moment. C'est-à-dire que j'ai des moments où je suis moi-même pas à l'aise et je sais pas vraiment comment interpeller, comment venir dire. Donc... parfois je viens juste dire bah peut-être que là je vais dire une connerie et je éventuellement dis une connerie et c'est pas très grave. Parfois je la coupe parce que en fait le fait de dire peut-être que je vais dire une connerie n'apporte rien. Parfois je le garde. Mais en tout cas j'essaie de le faire de la façon la plus naturelle possible et s'il y a un sujet qui est difficile à aborder et qu'on vient en parler, bah notamment je pense à David sur le dernier épisode. Je sais que c'est je fais une connerie par exemple en disant au tout départ que sa fille est trisomique je pense alors que c'est pas ça du tout et mais bon voilà le genre d'erreur que il doit entendre lui et donc je pense que c'est important aussi que je vienne dire à ce moment-là que je suis en train peut-être de dire une connerie. Je pense que l'important c'est juste de venir dire peut-être que je vais dire une connerie, si c'est le cas je m'en excuse, plutôt que de se la jouer je suis trop un beau gosse et j'ai tout compris à la vie, quoi. Je pense que l'interview, c'est un truc... Enfin, ça nécessite beaucoup d'empathie, ça nécessite beaucoup de se mettre dans les pompes de l'autre et d'y aller parfois avec des pincettes. Voilà. Donc, j'essaie de faire ça le mieux possible. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. C'est un peu le but. Parfois, ça rate. J'espère que ça répond à la question, en tout cas. Il y a Léla Palatute. Waouh. Léla Palatute. Qui me demande « Est-ce que tu veux que je sollicite le ministère de la Santé ?» Point d'interrogation. De la même façon qu'on assiste à des cours d'accouchement pris en charge par la Sécu, je pense qu'on devrait assister à des écoutes collectives de tes podcasts pour qu'on ne culpabilise pas de ne pas se sentir prêt, d'appréhender le premier contact, de devoir redessiner un schéma de vie à trois, etc. Sérieux, j'aurais été plus serein en écoutant les podcasts, ces entretiens en amont. Du coup, deuxième question rhétorique, pourquoi ne pas avoir commencé 3 ans plus tôt ? Merci beaucoup pour ça, vraiment, c'est un immense compliment que tu es en train de me faire là. Pourquoi pas avoir commencé 3 ans plus tôt? Parce que moi-même, je n'étais pas prêt. Voilà. Chaque chose dans la vie est un chemin. Mais effectivement, merci pour ça, parce que je suis assez d'accord sur le fait que j'avais notamment assisté, moi, pendant les grossesses de Kat, à des réunions de pères, et c'était dramatique comment c'était mené, vraiment. J'en ai un souvenir lointain, mais déjà c'était 2 meufs qui faisaient ça. Alors elles faisaient ça, je pense, avec la plus grande bienveillance possible et la plus grande, oui, c'est ça, bienveillance en fait envers les mecs, mais ça marchait pas parce que en fait les mecs donc c'était, ils avaient une séance ou 2 séances, je sais plus. En tout cas, en tant que mec, on avait 1 ou 2 séances. Et c'était dramatique parce que ils avaient, donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister aux séances de préparation à l'accouchement parce que j'étais à fond. Déjà parce que j'avais envie d'écrire mon blog, mais aussi parce que ça m'intéressait un peu de découvrir tout ça. Et donc j'étais plus ou moins au courant de comment ça allait se passer. Mais il y avait vraiment tellement de mecs qui étaient perdus. C'était fou, quoi. Vraiment, c'était fou. Et en 1 heure, vous n'arrivez pas à, quand, en tout cas, ces sages-femmes-là qui faisaient le plus possible leur travail et avec la plus grande bienveillance, encore une fois, elles n'arrivaient pas à briser la glace, en fait. Et les mecs se connaissent pas, tout le monde se regarde un peu, tout le monde se demande, j'ai peur de poser une question con, etc. Donc, il y a un sage-femme, en tout cas, je sais jamais comment on dit, un sage-femme, je pense, qui m'a envoyé un mail pour me proposer de faire un épisode. Et peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera une sorte de question-réponse avec lui pour peut-être faire un truc plus spécifique sur la préparation à l'accouchement. Ça fait partie des formats que j'aimerais bien développer pour faire grandir le concept, quoi. J'espère que ça répond à ta question qui n'en est pas vraiment une. Il y a Tathilde qui me demande, ces conversations t'ont-elles fait changer ou ajuster l'éducation que tu donnes à tes filles? Envisages-tu des récits plus compliqués dans le rapport papa-enfant? Genre papa qui ne veut pas voir son enfant, papa qui a fait de la prison. En tout cas, merci pour les podcasts. Bon, je pense que j'y ai déjà répondu. Il y a Maui qui dit, coucou, est-ce que tu penses parler de famille recomposée, d'éducation quand c'est pas tes propres enfants? Et merci pour tes podcasts, ils sont super chouettes, et merci aussi pour tout le reste. Alors, ça me permet de pouvoir parler du premier podcast avec une famille recomposée, qui était celui d'Oldelaf. Alors, j'ai vu pas mal de commentaires et de gens qui m'ont dit effectivement que ce podcast les avait un peu déçus, entre guillemets, parce que je ne parlais pas, je ne suivais pas le même chemin que d'habitude. Et je dois vous dire qu'après, à la réécoute, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais parti dans une interview un peu différente, effectivement. J'avais pas suivi le chemin classique. Et sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, pour moi, je peux comprendre que cet épisode vous ait déçu, parce que peut-être il y avait des choses à raconter sur la famille recomposée, l'Oldelaf, etc. Moi, je l'ai faite comme je le sentais à ce moment-là. Et en fait, je trouve que cette interview marche bien parce que je l'ai fait sans être en train de me dire « Oh là là, je suis pas du tout dans les clous ». Je l'ai fait avec la plus grande empathie possible envers lui et je suis hyper intéressé par tout ce qu'il me raconte. Et donc, je peux comprendre qu'à l'écoute, vous disiez « Bah alors, ça change de d'habitude ». Et moi, en fait, c'est ce que j'ai trouvé cool, c'est que au contraire, ça change de d'habitude. C'est pas la même interview tout à fait que d'hab. Y a des gens qui m'ont dit que c'était une interview de promo. Alors bon, je suis pas d'accord avec ça, parce que si vous avez déjà entendu une interview de promo de musique, et d'ailleurs, Oldelaf me le disait en sortant qu'il était super content de pouvoir sortir un petit peu des sentiers battus, des questions qu'on lui pose en permanence. Donc non, c'est pas vraiment une interview de promo, vraiment pas. En revanche, je peux comprendre que vous ayez été déçu par le contenu qui change un petit peu d'habitude de cet épisode. Moi, j'ai adoré cet épisode et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vraiment adoré cet épisode aussi. Il y a des gens aussi qui ont découvert Oldelaf par là, et moi, c'est, il y a que ça qui compte, hein. Vraiment, si vous réussissez à découvrir Oldelaf par Histoire de Daron, J'ai des gens aussi qui ont découvert Ben Mazuet, j'ai des gens qui ont découvert Verino et Sébastien Marx. Moi, c'est tout ce qui compte, c'est que si vous arrivez en plus à découvrir un artiste en écoutant ces histoires de darons, moi ça me va bien. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur cette histoire d'Oldelaf, mais effectivement ça mérite sans doute, parce que moi je ne savais pas en fait avant de démarrer l'interview avec Oldelaf qu'il avait une famille recomposée, je le découvre vraiment en direct. Ça mérite sans doute un épisode spécifique sur une famille recomposée, ou pourquoi pas une famille recomposée, ça pourrait être marrant. Si vous connaissez des familles, des darons qui ont monté des familles recomposées, qui ont monté des familles recomposées, comme s'ils avaient monté une boîte, pas du tout. En tout cas, qui sont au sein d'une famille recomposée, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à histoire avec un S, de daron avec un S, @gmail.com. Je bouge un peu, je change de position, je commence à avoir des fourmis. Léa Bordier, oh, dis donc Bichon. Donc je vous en parlais tout à l'heure, Léa qui fait cher corps, qui m'a posé des questions. C'est quoi les retours les plus touchants et les plus importants que tu as eu suite à la diffusion d'un épisode ? C'est important pour toi ? Alors oui, c'est important pour moi. Tous les messages que vous pouvez m'envoyer sont super sympas. J'ai parfois du mal à répondre à tout, je sais bien, parce que j'ai à côté de ça une autre vie, mais alors sachez que je lis tout, et parfois je ne sais pas quoi répondre d'autre que merci beaucoup, et je sais que parfois merci beaucoup ça suffit largement, mais parfois j'ai même pas le temps encore de pouvoir prendre le temps de vous répondre merci beaucoup, mais en tout cas sachez que tout ça me touche, et je pense que les retours les plus touchants pour moi, c'est globalement à tous les retours qui me... quand vous me dites tout simplement que mademoiselle a changé votre façon de voir les choses, a changé votre vision de la vie, a eu un impact sur vous d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis le plus heureux des gars, vraiment, vous me dites ça, je suis aux anges. Et puis, sans doute les plus touchants, ça a été les retours suite à l'histoire de Daron avec mon père. Vous avez été très 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 nombreux à m'envoyer des messages. Il y a eu des messages super touchants de personnes qui me disaient qu'elles avaient perdu leur père et que en fait, ce moment-là les avait particulièrement touchés parce qu'elles avaient l'impression d'entendre, de raconter justement qu'elles pourraient jamais avoir cette discussion-là et qu'elles avaient un peu la sensation de vivre à travers ma discussion avec mon père, peut-être une discussion avec le leur, et ça m'avait fait vraiment très très plaisir, quoi. Donc merci beaucoup pour ça, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, et si je ne vous réponds pas, je suis vraiment désolé, c'est juste que parfois il y a des semaines où c'est compliqué pour moi, et après je les laisse s'accumuler, et je ne m'en sors plus, et ce n'est pas du tout que je suis un gros bâtard qui ne fait pas attention aux gens qui lui écrivent, c'est juste que parfois j'en ai trop, je suis vraiment désolé pour ça. Léa encore qui me demandait d'autres questions, qui me disait tu feras comment pour enregistrer le tien ? Tu verras, c'est bientôt. Les enregistrements durent combien de temps ? Et tu utilises quoi comme micro ? Alors ça c'est intéressant, elle a mis LOL derrière, j'utilise un Zoom qui est un enregistreur en fait, qui est un Zoom qui c'est H4N, voilà, Zoom H4N, et en fait ce que j'ai utilisé comme micro à côté, c'est des micros qui sont vraiment basiques, c'est des Shure, S-H-U-R-E, alors j'ai plus le modèle exact en tête, je vous le mettrai si vous voulez dans les notes du podcast. Ça nécessite un petit investissement en fait, mais ça vous permet vraiment d'avoir un son au top, en tout cas je suis assez content du son que ça donne. Ça donne un son un peu pro, quoi. Et ensuite, Léa Bordier demande « Aimes-tu les lionceaux ?» Parce que, vraiment, Léa Bordier est un salaud. T'es vraiment la pire des personnes, Léa. Pourquoi elle demande ça ? Parce que une fois, il s'est passé un truc chez Mademoiselle où j'étais sur un super shooting avec Julien Doré. Je vais le raconter une bonne fois pour toutes, comme ça sera sur la place publique, n'est-ce pas ? J'étais sur un shooting avec Julien Doré pour son album Love, justement, où il était avec des lionceaux. C'était d'ailleurs la couverture, je pense, de la cover de l'album. Et donc, il y avait des lionceaux. Et le label m'avait proposé de venir filmer le shooting et de filmer Julien Doré en train de bagarrer avec des lionceaux, etc. Et les lionceaux étaient trop mignons. J'avais fait plein d'images, etc., etc. Et il s'avérait que j'ai perdu les rushs. Voilà, j'ai perdu les images. Ce qui fait que j'ai failli sauter par la fenêtre en m'en rendant compte, parce que c'est des choses qui arrivent, mais vraiment, c'est pas pro du tout et ça ne fait pas pro. Et donc, j'étais le seul média invité. Enfin, en tout cas, Mademoiselle était le seul média invité. Et c'est des... Comme c'est, même si c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui font, qui picotent un peu la gueule, voilà. Et donc c'est devenu une sorte de running gag au sein de l'équipe de Mademoiselle, et même entre les différentes générations, on va dire, entre guillemets, entre les équipes qui succèdent, il y a cette histoire qui perdure, celle-ci, et puis l'histoire d'Alexandre Astier, l'interview d'Alexandre Astier. Si vous l'avez jamais entendu, je vous invite à aller écouter mon interview sur Nouvelle École. J'en parle plus longuement, je ne vais pas refaire une redite ici, ça suffit. L'autoflagellation, c'est bon deux secondes. Merci beaucoup Léa pour tes questions, c'est trop cool, je te kiffe. Donc il y a Dodo 1606 qui dit « J'aimerais entendre la vie d'un père dont l'enfant a changé ou voudrait changer de sexe. C'est un sujet pas mal médiatisé en ce moment et quand je demande à mon homme comment il réagirait, j'ai pas grand chose comme réponse. » Bah oui, tu m'étonnes, c'est un sujet qui est encore extrêmement compliqué et peu connu et encore touchy dans notre société actuelle. Et pourquoi pas, mais en attendant, moi je fais comme je peux avec les témoignages que je reçois. Donc si un jour l'occasion se présente et que l'histoire mérite d'être racontée et que elle est dans comment dire, dans la ligne telle que je l'entends de Mademoiselle, je le ferai avec grand grand plaisir. De Mademoiselle, j'ai dit. D'histoire de daron, bien sûr.
Des formations professionnelles, ça fait 12 ans. Hein.
13 ans même, bientôt. Kamalo me dit « Merci Fab Florent pour ce podcast qui me fait monter les larmes de joie ou d'émotion à chaque écoute. » Oh là là, ça fait tellement plaisir. Ça devrait être reconnu d'utilité publique. Tiens, concernant la FAQ, je serais curieuse d'entendre des quelques darons de la génération de mon papa, 50-60 ans. Comptes-tu en interviewer ? Et écoute, oui, j'adorerais en interviewer. J'aimerais bien qu'il sorte du bois et qu'il n'ait pas peur d'en parler. Parce que souvent, je reçois des mails de la part de jeunes auditrices, on va dire, qui me disent « Mon père est génial !» mais et donc, elles me racontent toute l'histoire et je leur renvoie un mail en me disant « Et donc, est-ce que tu penses qu'il pourrait venir raconter tout ça ? Parce que ça me fait une bien belle jambe que tu le racontes, toi. » Mais j'aimerais bien qu'il le raconte, lui. Et là, tout de suite, j'ai « Ah non, en fait, il ne veut pas, parce qu'il n'ose pas venir en me parler. » Parce que je peux comprendre pourquoi les papas, ils ont peur de venir parler dans les micros. Et sinon, je sais bien que le couple... Donc, juste pour terminer, pour répondre à cette question, c'est... En fait, moi, je le fais avec grand plaisir. C'est juste... j'ai besoin, d'avoir des histoires comme ça. Donc, j'en ai quelques-uns, mais encore une fois, il y a des problèmes peut-être plus logistiques avec ces personnes-là, mais ça pourrait éventuellement se faire. Mais je le fais en fonction de ce qu'on m'envoie. Ce sera un petit peu le leitmotiv de cette FAQ. Et donc Kamalo demande aussi, je sais bien que le thème est la paternité, mais pourquoi ne pas aborder sur une question les problématiques de couple engendrées par l'arrivée du bébé, le regard du papa sur la maman change-t-il, qu'est-ce que cela a changé au sein du couple, etc., etc. Alors ça, je pense que ça pourrait être vraiment une super idée, mais je pense que c'est un truc qu'on fait plutôt en filigrane, en fait, au fur et à mesure des épisodes, en fonction de la façon dont l'interview prend, c'est des choses que je cherche à creuser. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le creuser sur un seul épisode en particulier ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pars du principe que je vais essayer de le creuser en tout cas, et en fonction de ce que les invités me disent aussi, hein, ce qu'ils me donnent, j'essaie de le creuser aussi dans ce sens-là. Et enfin, la dernière question, c'est une question de La Monstrueuse, c'est ton pseudo, n'est-ce pas, qui me dit, c'est une question en forme de thérapie. Avons-nous à pardonner à nos parents pour accéder à une parentalité sereine? J'écris en ce moment sur mon père, l'amour inconditionnel que je n'arrive pas à lui donner. Et je me demande du coup, quel parent je serais si je n'arrive pas à pardonner? Entre parenthèses, vous avez 4 heures. Et puis elle fait un petit emoji, bisous bisous. Eh ben... Avons-nous à pardonner à nos parents pour accéder à une parentalité sereine ? Alors ça, c'est une grande question. Moi, je pense que c'est cool. Peut-être pas de pardonner, en tout cas si vous avez des choses à leur pardonner, peut-être que c'est mieux de leur pardonner. Je ne sais pas, encore une fois. Mais je pense que c'est important d'avoir un peu de recul sur l'éducation que nos parents nous ont offerte. et d'avoir aussi peut-être du recul sur ce qui a marché, sur ce qui a moins bien marché, de vous dire aussi que bah l'éducation qu'ils vous ont donnée n'était forcément pas parfaite, parce que qui a eu des parents parfaits, hein, vraiment. Peut-être que ça existe. Si vous avez eu des parents parfaits, surtout n'hésitez pas à me le dire, mais franchement, ça m'étonnerait. On a forcément tous la somme des erreurs de nos parents. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis convaincu. Et donc, avons-nous à pardonner à nos parents pour accéder à une parentalité sereine? Moi, je pense que c'est important de pardonner. Je sais pas ce que ça veut dire pardonner derrière, mais en tout cas, d'avoir une forme de recul par rapport à l'éducation qu'on a eue et de réussir à faire le tri. Bon, c'est mon avis. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents aimants et des parents qui ne m'ont jamais battu, qui n'ont jamais été violents avec moi, etc. Qui ont déconné par d'autres aspects, mais ça c'est encore autre chose. Hein. Ils l'ont jamais fait exprès. En tout cas, ils n'ont jamais été violents avec moi. Et donc j'ai pas forcément de choses à leur pardonner, plutôt des trucs à accepter, en fait. Et ça, je pense que c'est important d'accepter qu'en fait, effectivement, ses parents sont pas des êtres parfaits. Je pense que c'est d'autant plus important que je pense que c'est important de dire à ses propres enfants qu'on n'est pas des parents parfaits. En tout cas, moi, c'est un truc que j'essaie de dire à mes filles tous les jours. Et puis j'espère que ça fera d'elles des adultes épanouis et des êtres humains libres et heureux. Ou heureux, comme elles voudront. C'est la fin. C'est la dernière question. C'était la dernière question, en tout cas. Ça fait une heure que j'enregistre, donc on est sur une histoire de daron assez classique, finalement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à vous abonner au podcast si c'est la première fois que vous écoutez Histoire de daron. En général, c'est pas du tout ce format-là, hein, c'est un format d'interview avec deux personnes. C'était un épisode un peu spécial, une sorte de bonus que je fais pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Abonnez-vous au podcast, mettez des petits commentaires, mettez une note aussi, mettez 5 étoiles, ça fera toujours plaisir. Et puis vous savez maintenant que Histoire de daron est disponible sur Spotify, ça fait un gros plaisir vraiment, donc n'hésitez pas à chercher dans la rubrique podcast, vous cherchez Histoire de daron, vous allez trouver Histoire de daron. Vous pouvez même vous y abonner, vous aurez directement la pop-up pour vous dire qu'un nouvel épisode est sorti. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, si vous préférez écouter les vidéos, en tout cas les épisodes sur YouTube, dans un onglet au bureau, c'est très possible aussi. Et puis si vous êtes plutôt du genre téléphone portatif, smartphone comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, soit sur podcast sur iPhone, notamment l'appli podcast, sinon il y a d'autres applis, hein. Il y a une appli qui s'appelle Overcast aussi, qui est très bien, qui est gratuite, soit sur Podcast Addict par exemple sur Android, ça marche aussi très bien. Vous tapez Histoire de daron et vous allez trouver le podcast, vous pouvez vous abonner et ensuite vous pouvez télécharger sur votre téléphone portatif les épisodes pour pouvoir les écouter n'importe où, dans le métro, même s'il n'y a pas de connexion. C'est un épisode que vous pouvez télécharger et écouter hors ligne, voilà, sans consommer de 4G si jamais vous avez un tout petit forfait. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a vachement plu d'enregistrer ça. Je vous dis merci beaucoup. Et puis, je vous dis à lundi prochain, sans doute. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.